Le mystère de la Trinité. Le mystère de la Trinité, c'est le mystère le plus grand de la foi du christianisme. C'est le mystère par excellence. C'est le mystère qui contient tous les mystères. Mystère aussi le plus caché, le plus obscur. Le pape Léon XIII disait « Le mystère de la Trinité, c'est la substance même du Nouveau Testament. » C'est-à-dire que dans le Nouveau Testament, nous trouvons au cœur de la révélation la Trinité, qui est objet de foi, d'espérance et de charité. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit « La Trinité, mystère de la foi, mais aussi de la vie chrétienne, mystère de Dieu en lui-même, source de tous les autres mystères, le plus haut. Toute l'histoire du salut n'est autre que l'histoire de la voie et des moyens par lesquels Dieu, le Dieu vrai, unique, Père, Fils et Saint-Esprit, se révèle, se réconcilie et s'unit les hommes qui se détournent du péché. » On va voir que Dieu se révèle, se réconcilie et s'unit les hommes qui se détournent du péché. Et le premier article du catéchisme de l'Église catholique est un appel à l'homme à vivre dans l'intimité de la Trinité. Il nous dit que Dieu a créé librement l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. C'est-à-dire que la finalité de notre vie, c'est d'entrer dans la Trinité, d'aimer la Trinité, de voir la Trinité, de la contempler. C'est le but de la vie chrétienne. Et ce but, il commence par notre baptême, quand nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu inscrit en nous ce but. Et de toute éternité, Dieu désire, bien avant notre baptême, que nous puissions entrer dans la Trinité. Alors cette révélation de la Trinité s'est fait progressivement. Et c'est pour soi que l'Église parle que l'histoire du salut, Dieu s'est progressivement révélé. Il y a toute une pédagogie de Dieu dans l'Écriture pour nous faire connaître le vrai Dieu, le Dieu unique. Tout d'abord, Dieu, à travers Abraham et les prophètes, va se révéler comme le tout autre, le transcendant, celui qui a créé le monde, mais qui n'est pas du monde, au sens la création n'est pas Dieu. Ce n'est pas comme dans des religions orientales où quelque part l'atome, l'insecte, le cosmos sont des parties de Dieu et nous sommes dans un tout. Non, Dieu est le tout autre, il est le transcendant. Et c'est pour ça que les prophètes vont lutter contre les idoles. On voit par exemple dans l'Écriture, dans les livres des rois, le prophète Élie qui va se battre par la prière contre les prophètes Baal, les prophètes de Baal, qui justement étaient idolâtres. Et Élie, prophète du Très-Haut, annonce, proclame, manifeste la transcendance divine du Dieu, l'unique et vrai, au-delà de toute créature. Ce Dieu unique et vrai, au-delà de toute créature, c'est le credo d'Israël révélé à Abraham. Écoute, Israël, le Seigneur est l'unique. Dieu est unique, il n'y en a pas d'autre. Il est au-delà de toute création. Et il est bien plus facile de faire cette expérience de l'unicité de Dieu, du monothéisme, Dieu qui est au-delà de toute création, qui le transcende, qui existe avant la création, dans le désert. C'est pour ça que la foi d'Israël est venue dans le désert. Parce que dans le désert, on se sent tout petit face à l'immensité. On peut à ce moment-là mieux contempler son Créateur. Et Abraham découvre dans le désert le Très-Haut, le transcendant qui parle. À la suite d'Abraham, les patriarches vont transmettre cette foi en Dieu unique, à l'unicité de Dieu. Dieu au-delà de toute création, Et Moïse va faire une expérience très forte. Dieu qui est au-delà de toute création, quelque part, son visage nous reste une obscurité. On ne peut pas le voir. On ne peut pas mettre la main sur lui. Il nous dépasse totalement. Il est au-delà même de notre intelligence. Et pourtant, déjà, les philosophes grecs avaient dit quelque chose de ce Dieu unique qui était la cause de la création, la cause de l'univers. Le philosophe Aristote montre par exemple une cause première à tout l'ordre des choses, comme si finalement la raison pouvait dire quelque chose du Dieu unique, d'une cause première, motrice à toute la création. Et l'Église affirme cela dans le Concile Vatican I et dans le Concile Vatican II, que la raison humaine peut arriver par des arguments convergents et convaincants à la certitude de l'existence du Dieu, de Dieu unique. Mais cette connaissance, rentrée en contact avec ce Dieu unique, ce n'est pas le Dieu des philosophes qui nous le donne, c'est la foi. Et c'est révélé à Abraham. Dieu va rentrer en contact en parlant. Écoute, Israël. En gros, écoute, Dieu parle. Dieu se révèle. Dieu se révèle à Abraham et à toute sa descendance spirituelle qui sera très nombreuse, nous dit l'Écriture, plus nombreuse que les étoiles. Et en particulier, Moïse va faire cette expérience que Dieu, même s'il dépasse l'intelligence et qu'il parle, Dieu est une obscurité lumineuse et un mouvement. Comment fait-il cette expérience? À travers le buisson ardent. Moïse fait l'expérience que le Dieu unique, c'est comme, ce n'est pas, c'est comme du feu. Ça bouge, ça brûle, ça brille, et ça ne s'arrête pas. Ça ne se consume pas, ça continue. Ça, c'est encore un approfondissement de la révélation. Moïse comprend que Dieu qui dépasse tout, qu'on ne peut pas voir, n'est pas une pure obscurité, mais une lumière absolue, un mouvement qui fait jaillir des étincelles. La mystique, plus tard chrétienne, reprendra cette idée. On pense par exemple à saint Jean de la Croix qui dira qu'on ne peut pas voir comme Moïse Dieu, sinon on en mourrait. C'est ce que dira un jour Dieu à Moïse, « Tu me verras de dos, parce que me voir de face, tu mourras. » Parce que Dieu est trop lumineux. Et l'expérience mystique, c'est plus on s'approche de Dieu, plus on en est aveuglé. Et donc, on prend l'exemple d'un hibou qui s'approche du soleil et qui en est aveuglé et qui ne voit plus rien. Il ne voit plus rien, non pas parce qu'il n'y a rien à voir, mais parce qu'il y a trop à voir, il en est aveuglé. En Dieu, il y a une surabondance de lumière. Le Dieu unique nous dépasse littéralement et nous l'approchons dans l'obscurité de la foi. Non pas parce que c'est lugubre, mais parce que c'est trop lumineux. Il y a trop de mouvement, trop de lumière, trop d'amour. Et donc Dieu donne la foi parce que c'est quelque chose de proportionné pour l'homme à sa connaissance. Moïse fait l'expérience que Dieu c'est du mouvement, que Dieu c'est de la vie, de la lumière. Et Dieu va dire à Moïse son nom. En fait, c'est une énigme. Il lui dit quelque chose qui le dépasse complètement. Quand Moïse lui dit, mais je dirais au peuple égyptien, de libérer ton peuple, mais que je lui dirai, c'est qui m'a envoyé? Tu lui diras, je suis celui qui est. Dieu donne son nom sans vraiment le donner. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit, la tradition de l'Église nous dit que Dieu manifeste par là le fait qu'il est la source de toute existence. Il est celui qui est, c'est-à-dire la plénitude de l'existence, la source de l'existence. Il est le Créateur. Il existe sans avoir besoin des autres. Il existe depuis toujours et de toujours. Tandis que nous, nous existons Par procuration, nous sommes créatures. Nous ne nous sommes pas donné l'existence. Le cosmos ne s'est pas donné l'existence. Non, il l'a reçue. Aucune créature ne peut dire « j'existe par moi-même ». La raison humaine permet de déceler cette réalité par la philosophie, en particulier la métaphysique. Quand on étudie la métaphysique de l'être, on découvre que les choses qui existent, qu'on appelle les étants, participe présent du verbe être, être en train d'exister, n'ont pas l'acte d'être en eux-mêmes, mais ils l'ont pourtant. Et il faut remonter à une cause première pour découvrir que la source de leur acte d'être, différent à chacun, est celui qui a l'être par excellence, qui est la source de l'être, on dira l'être subsistant. Et Dieu maintient toute chose dans l'existence. Il ne se contente pas de créer à partir de rien. Je suis celui qui est, transcendant à toute chose. Il maintient chaque chose dans l'existence. Si Dieu ne nous maintenait pas maintenant dans l'existence, on n'existerait plus. On retournerait dans le néant. Voilà pourquoi Dieu est la source de l'existence. Et Moïse comprend que cette source de l'existence, elle est en mouvement permanent. Elle est un brasier lumineux qui n'arrête pas de se consumer sans s'éteindre. Incroyable. Ça, c'est l'expérience de Moïse. Pour Israël, déjà, Dieu est Père. Pourquoi ? Parce que le mot Père veut dire quelque chose de la transcendance. Nous savons, par exemple, que dans un couple, une famille humaine, la maman engendre. Il y a une proximité, même une fusion avec l'enfant. Mais la personne qui va distancier l'enfant de sa mère et l'aider à passer au stade adulte, c'est le Père. Il en va de même pour la création. Dieu est Père. Pourquoi ? Parce qu'il est distant de sa création. Il est transcendant. À la différence des religions qui pouvaient exister, de faire croire que nous sommes issus de la déesse mère, la terre, où nous étions fusionnés, où Dieu était fusionné avec sa création. Mais non, Dieu est transcendant parce qu'il est en distance. Dieu est Père parce qu'il montre cette distance, nous dit Israël. Mais aussi, Dieu est Père parce qu'il s'occupe d'Israël, parce qu'il a voulu se révéler à Israël. Pourquoi il s'en occupe ? Parce que Dieu est Père, parce qu'il veut rentrer en alliance avec Israël, qui commence déjà avec Abraham. Et cette alliance, où il y aura la loi qui sera donnée, où Dieu parlera à travers les patriarches, les prophètes, Dieu va éduquer un peuple, faire alliance. Dieu se révèle comme un Père pour Israël, et dans le livre de l'Exode, il nous est dit que pour Dieu, Israël est son premier-né, son enfant. Dieu sera, nous dit le psaume 68, le Père des pauvres, c'est-à-dire celui qui prend soin de tous, et particulièrement des plus faibles. Et le rôle des prophètes en Israël sera de rappeler l'unicité de Dieu, la transcendance, le Seigneur est l'unique, tel Élie, le prophète des prophètes, mais aussi la place des plus pauvres. C'est cela bien montré, la paternité de Dieu, son unicité et la place des pauvres. Nous retrouvons ça dans le commandement chrétien. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton intelligence. Seul Dieu est ton prochain comme toi-même, la place des autres. Et le prophète Isaïe nous rappelle ça pendant le carême quand il nous le dit, c'est quoi le jeûne que Dieu préfère ? Le jeûne que Dieu préfère, ce n'est pas les sacrifices, mais c'est la justice, et spécialement pour les plus petits. Dieu est Père, Dieu est transcendant. Alors si Dieu est Père, et Paul dira un jour, « Je plie le genou devant Dieu qui est Père, source de toute paternité », en Éphésiens 3, 14, c'est que il ne faut pas penser comme nous sommes parents, nous pouvons l'être, Père, Mère, donc Dieu est Père de cette manière-là. Non, Dieu est Père d'une manière absolue, infinie, et en vérité, toutes les paternités se comprennent dans le mystère de Dieu, et pas l'inverse. Et donc Paul rappelle que Dieu est source de toute paternité. Et Dieu est Père parce qu'il est distant, il nous amène à la vie, il est transcendant. Et en même temps, il aime avec un cœur de Père et de Mère. Et dans Isaïe, au chapitre 26, il nous est dit que Dieu aime avec un cœur de Mère. Nous avons le fameux psaume 130 qui dit « Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Non, je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant contre sa mère. » Dieu aime avec des entrailles de mère. C'est cela la miséricorde. Dieu aime avec des entrailles de mère. Le Père transcendant aime avec des entrailles de mère. Et nous avons cette représentation dans le tableau de Rembrandt où Rembrandt manifeste montre le retour du fils prodigue, du fils qui va voir son père et en fait de l'homme qui va voir Dieu le Père, qui le prend dans ses mains et Rembrandt a représenté deux mains de types différents, une masculine, une autre féminine, pour montrer non pas que Dieu est androgyne, pas du tout, parce qu'il est au-delà de toutes nos représentations, mais parce que Dieu aime d'un cœur de père et d'un cœur de mère, tout en étant transcendant, tout en étant père. Donc Israël connaît Dieu Père et toute la révélation de l'Ancien Testament est pour montrer l'unicité de Dieu, ne pas confondre Dieu avec sa création, ne pas idolâtrer les créatures. Non, Dieu est l'unique et en même temps il nous aime, il est Père. Et il y a une éducation à avoir et Israël, son fils premier-né, rentre dans cette éducation à travers les commandements de Dieu, la loi et l'alliance. Et sans cesse, les prophètes rappellent à Israël le vrai Dieu, parce que la tentation idolâtrique, elle est toujours présente, même aujourd'hui, même pour nous. Et en même temps, le souci de la proximité du petit. Israël attend un Messie, celui qui est oint, qui a reçu l'onction, et c'est Jésus-Christ, Jésus le Messie, qui veut dire Jésus loin. Et Jésus parle de son Père comme de son Papa chéri. Il dira « Abba, Père ». Et en hébreu, « Abba », ça veut dire « Papa chéri ». Et nous verrons que Paul, dans Romains 8, dira « L'Esprit Saint nous aide à dire « Abba, Père ». Nous fait rentrer dans une intimité avec le Père. Cette intimité nouvelle, c'est le Christ qui nous permet d'y rentrer. C'est un approfondissement de la foi d'Israël. Jésus nous fait rentrer plus profondément dans l'intimité du Père déjà connu par Israël, mais nous rentrons profondément dans ses entrailles. Pourquoi ? Parce que nous dit par exemple le prologue de Saint Jean, chapitre 1, verset 18, « Le Fils unique qui était dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. » Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Dieu, personne ne l'a jamais vu, il est transcendant à toute chose. Mais Jésus, qui vient de Dieu, qui est dans le sein du Père, c'est-à-dire son intimité, nous allons voir dans le Saint-Esprit, il nous a fait connaître son intimité. Donc, quelque part, nous sommes rentrés dans l'intimité de l'amour du Père par le Fils éternel. On ne regarde plus Dieu de l'extérieur, nous sommes rentrés dans l'intimité de Dieu. C'est ça la révolution du Nouveau Testament. Jésus va se révéler comme celui qui révèle l'intimité du Père, Abba Père, mais plus encore, qui est l'égal du Père, qui est l'égal du Père. Et ça va bouleverser les Juifs qui vont penser que c'est de l'idolâtrie, du blasphème. Jésus dira « Tes péchés sont pardonnés ». Et pour les Juifs, c'est impossible de faire cela. Seul Dieu pardonne les péchés, pour eux c'est un blasphème. Et Jésus sait cela et dira « Est-il plus facile de guérir ?» dire à cet homme « Jeune homme, lève-toi » ou dire « Tes péchés sont pardonnés » et il guérira le paralytique pour montrer qu'il a à la fois la force de guérir et à la fois la force de pardonner. Mais alors si Dieu, si Jésus pardonne, c'est qu'il est comme Dieu. Il a le même pouvoir que Dieu. Et Jésus va continuer en disant en Jean 6 « Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Jean 6, 24. Et Jésus ne dit pas simplement « je suis un tel, je suis un tel ». Le « je suis fort », »,« je suis » au sens fort du terme, Jésus reprend la révélation faite à Moïse. « Qui es-tu ? Je suis. » Jésus est la source de la vie. Il est Dieu, source de l'existence, le Dieu qui a tout créé. « Je suis. » Et les Juifs discutent avec lui, et à un moment, il lui dit « mais tu es jeune. » Et Jésus dira « avant qu'Abraham ne fût, je suis. » Il répétera ça en Jean 6, verset 58. « Avant qu'Abraham n'existe, je suis. » J'existe. Jésus révèle encore sa divinité. Et Thomas, à la résurrection, verra la divinité du Christ. On dit souvent Thomas, c'est un grand incrédule, on est comme lui. Simplement, quand il a vu le Christ, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il reconnaît « Je suis » en la personne de Jésus. Et Paul, qui comprend ce mystère, écrira dans l'Épître aux Philippiens « Le Christ, ayant la condition de Dieu, la même nature que Dieu le Père, ayant la condition de Dieu, ne retint pas le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes. » Donc Paul comprend que le Christ est Dieu. Il est « Je suis » et il s'est anéanti, il s'incarne, il se fait homme pour nous parler de l'intimité du Père. Et cette connaissance de Jésus-Christ nous est donnée par le Saint-Esprit. Le Nouveau Testament révèle fortement la divinité du Christ dans ses actes, ses paroles, l'intimité du Père transcendant qui était connu dans Israël, mais révèle aussi la troisième personne de la Trinité, l'Esprit-Saint. Plus discrètement, et plus sur la fin des évangiles. Jésus dira que l'Esprit-Saint sera comme un enseignant en Jean 14, 7, Jean 14, 26, qu'il nous fera rentrer dans la vérité tout entière en Jean 16, 13, qu'il dit « Je vous enverrai un autre paraclet, un autre défenseur, un autre avocat. Pourquoi » Pourquoi? Parce que le premier avocat, paraclet, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui, auprès du Père, prie pour nous. Nous prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, celui qui nous a rachetés, qui est notre défenseur. Mais quand Jésus dit « un autre paraclet », il parle aussi d'une autre personne. Il parle de l'Esprit défenseur, l'Esprit Saint consolateur. On pourrait croire que c'est une énergie, une sorte d'aura particulière qu'a Jésus. Eh bien non, il n'en est rien. C'est vraiment une personne plus mystérieuse. Et pourtant, c'est bien une personne. Jésus dit qu'il est un autre défenseur. Et Paul dira, plus précisément, « Ne contristez pas le Saint-Esprit. » C'est-à-dire, « Ne rendez pas triste le Saint-Esprit. » Comme si on pouvait rendre triste le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut rendre un objet triste? Non. C'est une personne, le Saint-Esprit. Et à la fin de la révélation dans le Nouveau Testament, la fin plutôt du Nouveau Testament, la révélation continue jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse. À la fin du Nouveau Testament, dans le chapitre 28 de Matthieu, Jésus dit « Allez dans le monde entier, faites des disciples. Apprenez-leur à garder mes commandements, proclamez l'Évangile et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Cette vie divine qui commence par notre baptême, c'est le mystère de la Trinité. Le Père est révélé dans l'Ancien Testament, son intimité profonde est révélée en Jésus-Christ. Le Fils est révélé, le Fils éternel qui a toujours existé. Et le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur, l'Esprit de vérité, est révélé. Et nous avons une égalité de dignité puisque les trois sont au même degré, Père, Fils et Saint-Esprit. Et les trois sont dans l'unique nom de Dieu, au singulier, qui est Dieu. Et on ne prononce pas le nom de Dieu. Et vous avez dans l'église, dans le petit vitrail, dans la nef centrale, tout en haut, le tétragramme, le nom du Seigneur en hébreu qu'on ne prononce pas. Pourquoi? Parce que les Juifs ne prononcent qu'une fois par an le nom de Dieu, le jour du grand pardon. Mais en général, ils ne prononcent pas le nom de Dieu parce qu'on ne met pas la main sur le nom de Dieu. Le nom de Dieu dans la Bible définit la mission de la personne, son identité, son essence, ce qu'elle est. Et aucune créature ne peut mettre la main sur le nom de Dieu. Ça serait mettre la main sur Dieu. Ça serait faire de Dieu un objet, être idolâtre, ne pas reconnaître sa transcendance. C'est comme si je prends un stylo et je dis stylo et je mets la main sur toi. Mon Dieu nous dépasse et on ne dit pas le nom de Dieu. Alors quand nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu reste toujours transcendant, nous dépasse. Mais Jésus nous a révélé son intimité. Nous rentrons dans la transcendance, non pas en y mettant la main dessus, Dieu nous dépasse. Mais nous rentrons dans la transcendance par l'intimité qui nous est donnée dans le Saint-Esprit, donnée par Jésus-Christ. Nous rentrons dans la transcendance avec un esprit de fils. Nous sommes, comme dit l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, nous devenons fils dans le Fils. Donc nous sommes bien baptisés dans la transcendance, au nom et dans cette intimité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Église va creuser ce mystère de Dieu. Et donc, dans le temps, dans la tradition de l'Église, vont se développer des concepts, non pas pour rajouter des choses, mais pour déployer le mystère qui est révélé, que vivent les premiers chrétiens, qui est révélé dans toute l'Écriture. Ce mystère du Dieu Trinité. Et donc, le mot Trinité, qui n'est pas dans l'Écriture, va être une formalisation dogmatique pour nous expliquer ce qu'est le vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. La Trinité, c'est le mystère d'un Dieu unique en trois personnes. Dieu unique en trois personnes. Ce n'est pas un polythéisme, c'est un Dieu unique, source de vie, qui a tout créé, transcendant, qui soutient tout dans l'existence, en trois personnes. Le Père éternel, qui n'est pas Père comme vous et moi, qui n'est pas Père le jour où il devient un enfant et qui évolue dans sa paternité selon s'il a plusieurs enfants ou que les enfants grandissent. Non, il est Père de toujours et pour toujours. Et sans cesse, il engendre. Le Fils n'est pas un fils puéril qui finalement n'atteint jamais l'âge adulte. Non, il est Fils pleinement, totalement, parce qu'il est celui qui reçoit sans cesse et qui redonne au Père. Et si Dieu est esprit, alors il semblerait peut-être que le Saint-Esprit s'est fait avoir parce qu'on ne lui a pas donné un nom propre. Et pourtant, le Saint-Esprit, c'est le nom propre de la troisième personne de la Trinité. Il est l'Esprit qui sanctifie. Il est le lien d'amour entre le Père et le Fils pour le Père. Et quelque part, le Saint-Esprit, c'est tellement dense que c'est une personne. Il y a un unique Dieu. Le Père a toute la divinité, le Fils a toute la divinité, le Saint-Esprit a toute la divinité. Le Père donne tout ce qu'il a au Fils et au Saint-Esprit. Le Fils donne tout ce qu'il a au Père et au Saint-Esprit. L'Esprit-Saint donne tout ce qu'il a au Père et au Fils. Alors qu'est-ce qu'ils ont en propre? Leur nom. Leur nom, Père, Fils et Saint-Esprit, qu'ils gardent à chacun, qui est leur identité, leur personne. Et derrière ça, c'est leur mode de fonctionnement qui est différent. Le Père sans cesse engendre, le Fils sans cesse est engendré, et nous entendrons au baptême, « Tu es mon Fils bien-aimé, aujourd'hui je t'ai engendré, et il y en a un qui est engendré et l'autre qui engendre. » Et ce divin engendrement est fait dans l'amour qui est le Saint-Esprit, et nous voyons au baptême la colombe du Saint-Esprit, sans cesse. Donc c'est un mystère, et nous rentrons dans la Trinité qui est notre but, par le baptême. Par le baptême, nous sommes unis au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nous devenons fils adoptifs dans le Fils et nous prenons une place dans la Trinité. Il nous est dit dans la Genèse que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire homme et femme, il les créa, nous dit la Genèse. Cette complémentarité sexuelle, intellectuelle, psychologique, spirituelle, relationnelle, de l'homme et la femme, nous dit quelque chose de l'image de Dieu, qui est très différent du reste de la création. La création a des traces de la Trinité. L'Église nous enseigne qu'on ne peut pas, par la seule raison, nous dit un concile, on ne peut pas, par la seule raison, arriver à connaître la Trinité. C'est révélé. Nous pouvons connaître qu'il y a un Dieu unique, une cause première. Mais quand nous avons la foi, nous recevons la révélation à la Trinité, il nous est possible de déceler des traces de ce Dieu créateur, Père, Fils et Saint-Esprit, dans la nature. Mais dans l'homme et la femme, nous voyons plus que des traces, nous voyons son image. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme et la femme sont faits pour la communion et la relation. Et Dieu n'est pas un Dieu solitaire, en lui-même il est relation. Le Père a des relations avec le Fils dans le Saint-Esprit, le Fils a des relations au Père dans le Saint-Esprit, l'Esprit-Saint a des relations avec le Père et le Fils. Dieu est relation et Dieu est communion, Dieu est unité parfaite. L'homme cherche cette unité, cette communion. Il est un être relationnel. En cela, il ressemble à la Trinité. Et plus il montrera cette relation, plus il aura la ressemblance de Dieu. Un saint, c'est celui qui montre dans tout son être la relation trinitaire. Quand Dieu, qui est saint, le trois fois saint, dit dans le livre Lévitique, « Soyez saints, car je suis saint, la Trinité est sainte », il appelle ses enfants à rentrer en lui, dans son mystère, pour qu'il montre quelque chose de sa sainteté, qu'il devienne vraiment de plus en plus à son image. Et nous avons même, nous dit saint Augustin, ce sont des comparaisons, mais elles sont instructives, dans l'homme même, un schéma trinitaire. Le Père, origine de tout, le Fils, intelligence de tout, il est le Verbe, le Fils éternel, et l'Esprit-Saint, l'amour. Et nous avons dans l'homme une capacité de mémoire, une capacité de réflexion et une capacité à aimer, sous le modèle trinitaire. Et nous avons ces éléments-là, même dans la création. Tous les éléments ont leur origine, quelque part. Ils ne sont pas créés par eux-mêmes. Ils viennent de Dieu. Ils viennent du Père. Tous les éléments ont une intelligence, une cohérence. Quand on les étudie scientifiquement, artistiquement, on voit qu'il y a une harmonie. Or, l'intelligence suprême qui a tout créé, c'est le Logos, le Verbe, le Christ. Et tous les éléments sont faits par amour. Et il y a même une forme de gratuité, pas que de nécessité, de gratuité dans la création. Pourquoi les pâquerettes sont comme ça? Pourquoi il y a différentes couleurs de roses? C'est peut-être pas utile, c'est de la pure gratuité, c'est de l'amour. Il y a des traces du Dieu trinitaire dans la création. Et donc nous voyons que notre Église, qui est appelée à être une communion de personnes dans le Christ, est appelée à quelque part à représenter le mystère trinitaire, la communion, les relations. La doctrine sociale elle-même de l'Église, dans son compendium aux premières pages, rappelle que le fondement de la doctrine sociale, c'est la Trinité, c'est le Dieu relationnel, qui n'est pas solitaire en lui-même. Alors voilà, nous pouvons méditer profondément ce mystère de la Trinité qui nous dépasse complètement. Dieu veut que nous rentrions avec tout ce que nous sommes dans son mystère. Donc utilisons notre intelligence, nos qualités. Mais plus profondément, nous rentrons dans la Trinité qui est le mystère silencieux par excellence. Le mystère silencieux par excellence, par la prière. Et je voudrais finir par une prière d'une sainte, la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, qui a reçu comme don la grâce d'approfondir ce mystère. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure, aimez, et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, toute livrée à votre action créatrice. Ô mon aimé Christ, aimé crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour votre cœur. Je voudrais vous couvrir de gloire. Je voudrais vous aimer jusqu'à en mourir. Mais je sens mon impuissance et je vous demande de me revêtir de vous-même, d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre âme, de me submerger, de m'envahir, de vous substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre vie. Venez en moi comme adorateur, comme réparateur et comme sauveur. Ô Verbe éternel, parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous écouter, je veux me faire tout enseignable, afin d'apprendre tout de vous, puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière, ô mon astre aimé, fascinez-moi, pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement. Ô feu consumant, esprit d'amour, survenez en moi, afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe, que je lui sois une humanité de surcroît en laquelle il renouvelle tout son mystère. Et vous, ô Père, penchez-vous vers votre pauvre petite créature, couvrez-la de votre ombre, ne voyez en elle que le bien-aimé en laquelle vous avez mis toutes vos complaisances. Ô mes trois, mon tout, ma béatitude, solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs. Amen.